En un sens, Orwell l'avait prévu, 1984 serait une année importante, mais pas tout à fait comme il l'avait envisagé. Et 1984, Pierre Rimbert vient de le dire à propos de cette émission, c'est une année importante à l'échelle du monde occidental. Et effectivement, là, on a l'impression que c'est un exercice de pédagogie destiné à l'électorat de gauche, en partie et très largement, qui vise à accompagner le virage de la rigueur qui est entrepris par les gouvernements depuis 1983. Et je dis, ça se passe à l'échelle du monde occidental, ce revirement, ou en tout cas, ce basculement d'une partie de la gauche à droite. Aux États-Unis, 1984, c'est l'année de l'émergence d'une tendance moderne dans le camp progressiste. Vous savez que les progressistes aux États-Unis, on les appelle les liberals. Et alors, c'est les modernes. Et les modernes, comment les appelle-t-on ? Néo-liberals. Mm-hmm. Les néolibéraux, aux États-Unis, c'est la tendance du Parti démocrate, qui est la plus proche des milieux d'affaires, des yuppies, comme on les appelle à l'époque, les bobos d'aujourd'hui, qui est la plus éloignée des syndicats et qui célèbre le plus systématiquement le culte des entrepreneurs dynamiques. En France, bon, on aura l'occasion d'y revenir, mais 1984, c'est l'arrivée de Laurent Fabius à Matignon et le discours qui est organisé autour de deux mots d'ordre, moderniser et rassembler. C'est Laurent Fabius qui remplace Pierre Mauroy, qui était, lui, plus associé à la vieille social-démocratie, à la fois modérée et ouvrière. C'est aussi l'année où le Parti communiste quitte le gouvernement. Et 1984, au Royaume-Uni, Pierre Rimbert évoquait tout à l'heure les mouvements sociaux, les transformations, les grèves, etc. Au Royaume-Uni, c'est le début de la grève des mineurs, qui durera un an, qui sera terrible et qui sera un terrible échec. Un peu comme 3 ans plus tôt, il y avait eu la grève des contrôleurs aériens aux États-Unis qui avait débouché sur la liquidation d'un syndicat. Or, il est évident que ces réformes libérales qui sont entreprises dans les années 80 exigent comme condition préalable la liquidation ou en tout cas l'affaiblissement du syndicalisme, l'affaiblissement du monde ouvrier. Et à la suite de cette grève, qui aura des effets terribles au Royaume-Uni, le Parti travailliste deviendra de plus en plus ce néo-labour qui, à l'époque, sera prise en main par Neil Kinnock, qui sera plus tard vice-président très libéral de la Commission européenne. Et enfin, dernier exemple, qui est sans doute le plus significatif, 1984, c'est l'arrivée au pouvoir en Nouvelle-Zélande d'un gouvernement travailliste qui sera l'artisan du plus fondamental, de la réorientation la plus fondamentale de l'économie dans la voie ultralibérale, autour d'un modèle qui est le libéral-libéralisme, puisque ce gouvernement travailliste mettra en œuvre une politique ultra-libérale au plan économique, mais en même temps, la décentralisation, le droit des femmes, des homosexuels, la défense de l'environnement et la défense des minorités, des Maoris en Nouvelle-Zélande. Donc vous avez en quelque sorte, dans l'ensemble du monde occidental, un basculement qui vise très largement les partis de gauche qui s'adaptent aux transformations induites par Margaret Thatcher et par Ronald Reagan depuis 1979.
Justement, Pierre Rimbert, dans votre bouquin sur Libération, sur le quotidien Libération de Sartre à Rothschild, vous expliquez comment l'évolution, le basculement de ce journal, c'est le basculement de toute la société française et occidentale par extension. Et Vive la crise est coincée dans la charnière, on peut dire.
Oui, Vive la crise marque le moment charnière. Marque le moment où la dernière digue va céder. Et cette dernière digue, c'était un peu la polarisation du champ politique français. Il y avait une droite de droite et une gauche de gauche. Et elles s'affrontaient. Et cet affrontement était insupportable pour beaucoup de gens, notamment pour ces gens qui se disaient des modernistes. Il y avait des modernistes de droite, des modernistes de gauche, qui, plutôt qu'une gauche de gauche et une droite de droite, auraient préféré une république du centre. C'est ces gens-là qu'on retrouve dans Vive la crise. Vous savez, on s'est beaucoup moqué du réalisme socialiste, de ces films de propagande, de Stakhanov, etc. Vive la crise, c'est le réalisme libéral. La production à la télévision s'est déchaînée à cette époque. 2 ans plus tard, vous aurez Bernard Tapie, avec son émission Ambition, qui vous apprend en direct à fabriquer une entreprise. Le réalisme libéral, c'est aussi ces journalistes, ces intellectuels qui vont plastronner sur les plateaux de télévision pour expliquer aux gens, et en particulier aux victimes de la crise économique, qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut faire des sacrifices, qu'il faut renoncer aux conquêtes sociales. Et c'est le thème de Vive la crise.
Et si jusqu'à présent...